Alors, nous avions déjà commencé à regarder la deuxième épître à Timothée, et je vous propose la suite de cette étude en regardant ce qui se dit dans le début du deuxième chapitre. Donc, nous avons vu la première fois quel était le contexte. Donc, Bon, Paul est à Rome, il est en prison, il est à la fin de sa vie, et en plus il est très inquiet de ce qui se passe à Éphèse. Et l'église d'Éphèse, c'est une église que Paul avait fondée bien des années auparavant et qui ne va pas bien. Certains cherchent à couper les ponts avec Paul et avec son enseignement, en enseignant des choses fausses. Donc le ministère apostolique est attaqué parce qu'il est centré sur un évangile qui présente un sauveur qui souffre. Et ce message de la croix qui donne la vie ne convient pas à certaines personnes à Éphèse qui veulent quelque chose de plus triomphant, de plus, peut-être de moins macabre. Et puis qui veulent quelque chose qui a des implications là, tout de suite. Et ces personnes disent, il n'y a pas de résurrection. La résurrection, elle a déjà eu lieu. Et c'est maintenant que les croyants peuvent profiter de la pleine grâce de Dieu sans rien attendre pour plus tard. On appelle ça, cette façon de voir, le triomphalisme. Alors, j'aimerais faire déjà à ce propos un petit aparté. Qu'est-ce que le triomphalisme est devenu à notre époque ? En quoi est-ce que cette façon de penser que nous pouvons déjà jouir de toutes les bénédictions de Dieu et que finalement on n'a rien à attendre de plus tard, est-ce que c'est quelque chose qui est encore présent à notre époque ? Eh bien oui, je vous le dis, ça s'appelle l'évangile de la prospérité. Alors je voudrais faire un petit aparté sur l'évangile de la prospérité. Parce que ça, c'est quelque chose qui existe à notre époque. Et c'est même quelque chose qui fait des ravages. Qui fait des ravages, notamment en Afrique, en Amérique du Sud. Et les tenants de cet évangile de la prospérité ont des affirmations qui paraissent bibliques, et quand on les regarde d'un peu plus près, elles sont un petit peu tordues, un petit peu biaisées. La première affirmation, c'est que l'alliance conclue avec Abraham, vous savez que Dieu a conclu une alliance avec Abraham, et que Abraham a été béni, il a été béni de façon visible, hein, il avait des troupeaux à plus savoir où les mettre. Et l'alliance avec Abraham donne droit à la prospérité matérielle. Et un certain Édouard Pousson dit dans un livre qui s'appelle « Spreading the Flame » que les chrétiens sont les enfants spirituels d'Abraham et ses héritiers concernant les bénédictions découlant de la foi. Ça, on n'a rien à redire là-dessus. Cet héritage comprend tout d'abord une prospérité matérielle. En gros, si vous êtes chrétien, ne vous inquiétez pas, vous allez devenir riche. Le deuxième point, c'est que le sacrifice de Christ rachète aussi de la pauvreté matérielle. C'est un certain Copeland qui dit à propos du sacrifice de Jésus que le principe élémentaire de la vie chrétienne est de savoir que Jésus a porté à la croix notre péché, nos maladies, nos peines, nos douleurs, jusque-là, rien à dire, et notre pauvreté. Ça, je ne sais pas où il l'a trouvé, mais pas dans la Bible. Et puis, le troisième point, c'est que les chrétiennes donnent, et on les appelle même à donner assez largement, pour recevoir en retour des bénédictions matérielles. Alors oui, Jésus a dit, on trouve ça dans Marc 10, verset 19, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou terre, et qui ne reçoive au centuple, présentement dans ces temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. » Vous vous rendez compte? Je pourrais avoir 400 enfants. À partir de ce verset, une certaine Gloria Copeland s'appuie là-dessus pour écrire que Dieu veut la prospérité, donc que si on donne 100 dollars, évidemment c'est une américaine, si on donne 100 dollars, on va recevoir 1000 dollars, et que si on donne 1000 dollars, on va recevoir 100 000. Ce verset de Marc 10, verset 30, c'est une super affaire finalement. C'est bien mieux que la caisse d'épargne. Mais il semble évident que l'ordre de donner est basé sur de mauvaises motivations. Parce que Jésus, dans Luc 10, dit qu'il faut donner sans rien attendre en retour. Et puis, ce que Madame Copeland a oublié de dire, c'est la fin du verset. Parce que le verset, il continue, donc, « Reçois vos centuples présentement dans ce temps-ci des maisons des frères. » Avec des persécutions. Ah, ça c'est un peu embêtant. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, des bénédictions, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Et puis, le quatrième point, c'est que la foi est comprise comme une espèce de force spirituelle qui conduit à la prospérité. Dans le monde chrétien, on pense que la foi, c'est la confiance placée dans la personne de Jésus-Christ. Pour les théologiens de la prospérité, c'est cette force spirituelle qui gouverne les lois qui régissent le monde spirituel et qui régissent la prospérité, et que la foi fait fonctionner ces lois. Et puis le dernier point, c'est que la prière est un moyen pour forcer Dieu a accordé la prospérité. Et c'est un certain, ça ne s'invente pas, hein, il s'appelle Creflo Dollar, qui a écrit ça. Si on prie en croyant qu'on a reçu l'exaucement, Dieu est obligé d'exaucer nos prières. C'est qui le patron là? C'est nous. Tu es obligé d'exaucer nos prières. C'est la clé pour obtenir des résultats en tant que chrétien, dit Creflo Dollar. Donc, c'est une tentative pour ramener les bénédictions futures à la vie présente. Mais c'est surtout une tentative qui marche très bien pour les dirigeants d'église, qui, eux, effectivement, sont souvent très riches et vivent très bien. On demande beaucoup. Si vous voulez des bénédictions, donnez. Si vous voulez une bonne santé, donnez. Si vous voulez être prospère, donnez. Si vous voulez être protégé contre les forces du mal, alors donnez largement à l'Église. L'Église priera pour vous et vous serez exaucé. Malheureusement, ça ne marche pas. Enfin, ça marche pour ceux qui... pour les pasteurs. On n'a pas fait la collecte encore, mais... C'est facile à dire. Vous ne recevez pas. Mais c'est parce que vous n'avez pas assez donné. Voilà. Et c'est très destructeur pour l'Église elle-même et pour les fidèles qui finalement sont déçus. Sont déçus parce qu'on leur a fait des fausses promesses. Alors... Si vous voulez creuser ça, je vous ai mis, c'est un peu long à apprendre par cœur, hein, le lien, mais si vous tapez Évangile de la prospérité, vous aurez ça qui va arriver, et c'est très intéressant. Il y a tout un article sur le site d'Évangile 21 sur ce, je vous ai vraiment résumé ça. Alors, la conclusion, c'est que on peut appeler ça l'évangile plus. L'évangile plus, c'est quelque chose qui a menacé l'Église depuis que l'Église existe. C'est-à-dire de dire, ah ben oui, l'évangile c'est bien, mais moi je vais vous donner des trucs en plus, qui vont vous apporter des bénédictions supplémentaires. Alors, ça peut être l'Église catholique, dès le départ, avec l'enseignement des pères de l'Église qui s'est empilé, d'où on peut arriver à des images, des aberrations comme ça, où Marie a quasiment remplacé le Christ sur la croix. Ça peut être aussi les livres de Charles Russell et ses successeurs qui ont créé les témoins de Jéhovah, qui ont modelé les témoins de Jéhovah. C'est tout des endroits où on dit on se fie à la parole de Dieu, on se fie à la Bible. Oui, mais on a accumulé des choses en plus. Et l'évangile plus, c'est en réalité l'évangile moins. Parce que tout ce qu'on a rajouté, on l'a pris à Christ. Si Christ mort et ressuscité pour nous, si ça ne suffit pas, s'il faut rajouter des choses, c'est parce qu'on réduit l'importance de l'œuvre de Christ. Et finalement, au lieu d'ajouter quelque chose à la foi des chrétiens, on leur enlève quelque chose. Alors, nous devons, dans notre cœur déjà et autour de nous, combattre le triomphalisme et la théologie de la prospérité. Revenons à Éphèse. À Éphèse, donc, on a vu que les gens voulaient repousser Paul, que la pureté de l'évangile était altérée, qu'il y avait des gens qui annonçaient des choses farfelues. Certains n'ont plus qu'une façade de foi. Et heureusement, pour Paul, à Éphèse, il y a Timothée. Et il va donc lui écrire, et on va lire cette lettre de Paul à Timothée. Du moins, c'est sept chapitres, c'est sept versets, pardon. Donc, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. Dans le chapitre 1, Paul avait déjà donné des conseils à Timothée. Il lui avait dit « Ranime la flamme du don que tu as reçu de Dieu ». En gros, secoue-toi un peu. Il lui avait dit « Puise dans les dons de l'esprit ». Vous savez, cet esprit, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il lui avait dit « N'aie pas honte de l'Évangile, n'aie pas peur ». Et il lui avait dit aussi de retenir le modèle des saines paroles qu'il avait entendues de lui. Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire de plus dans ce deuxième chapitre ? Il va lui dire et il va nous dire ce qu'on peut appeler la stratégie générale. Toi donc, et ça serait bien que chacun de nous prenne ce « toi donc » en pleine figure. Toi, c'est pas que Timothée, c'est moi, vous. Fortifie-toi. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Toi donc, c'est un appel à se démarquer. Toi, fais pas comme les autres. Sois différent, sois différente. Dieu veut qu'on soit des serviteurs efficaces et il nous donne la puissance pour accomplir le ministère qu'il nous demande. Il nous demande de puiser dans cette puissance. Fortifie-toi. Le verbe utilisé ici est un verbe qui concerne la capacité d'arriver au bout d'une certaine tâche. Pas la laisser en plan, pas la laisser au milieu, pas la laisser à moitié accomplie. Et c'est un impératif qu'on appelle au présent continu. C'est-à-dire que c'est pas se fortifier un jour comme ça une fois. C'est se fortifier en permanence. Sois en permanence en train de te fortifier. Et qu'est-ce qui nous fortifie ? La grâce que Jésus nous a apportée. Nous avons à continuer notre œuvre, ou plus exactement, son œuvre au fil du temps. Et la force nous vient de l'extérieur, de la volonté de Dieu. On est incapable par nous-mêmes. La grâce est disponible pour nous aider à accomplir. On ne peut pas la mettre en réserve. Il faut l'utiliser au fur et à mesure des besoins. L'apôtre Pierre, dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, nous donne un éclairage là-dessus. Il dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » La grâce infiniment variée de Dieu. Et pourquoi elle est variée ? Parce qu'elle s'adapte à chaque besoin. Et Pierre nous dit que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. C'est ce que j'essaie de faire. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu lui donne. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Ajoutez en toutes ces choses de manière à ce que la grâce, à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Et puis Paul nous décrit dans la deuxième épître aux Corinthiens une expérience qu'il a fait avec Dieu, où il est question de grâce. Paul avait quelque chose qui n'allait pas, probablement dans sa santé. Et il dit, « Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Fortifions-nous chaque jour en pensant à la grâce, à l'amour, au pardon, à la puissance que Dieu veut nous donner par son esprit. Et deuxième point, confiez l'évangile à des personnes fidèles. Verset 2, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Confier, ça veut dire mettre sous la garde de quelqu'un. Lorsqu'on expérimente la grâce de Dieu, il faut la confier à d'autres. Et on voit dans ce verset qu'il y a une chaîne qui commence. Paul a instruit Timothée, il demande à Timothée d'instruire d'autres, et ces autres devraient être capables d'instruire encore à d'autres. Et c'est comme ça que l'évangile nous est arrivé. Elle est arrivée par cette chaîne de personnes depuis 2000 ans qui ont instruit la génération suivante. Question. Qui formons-nous pour le ministère? Qui demain sera à ma place? Enfin, vous allez me dire, demain c'est lundi. Mais plus tard. Et comment formons-nous? Il faut chercher pour cela des hommes fidèles, des femmes fidèles, des jeunes gens fidèles. Pas forcément des gens très brillants intellectuellement, même si ça ne gêne pas, hein, pas forcément des bons gestionnaires des finances de l'Église, même si ça ne gêne pas non plus, mais surtout des gens fidèles, pas des girouettes, qui sont loyaux, qui ont démontré que leur foi est authentique, solide. Il faut les rechercher, les former, développer leurs dons, leur donner de l'expérience. Peut-être que c'est bien. Il y a un certain nombre de gens plus jeunes que moi, donc des jeunes, ici, que vous posiez la question, est-ce que ce toi donc là, qui ce doigt qui est pointé vers moi, est-ce que c'est pas aussi vers moi que me dit, est-ce que ça serait pas toi, la personne fidèle? Est-ce que ça serait pas toi qu'il faut former pour demain annoncer l'Évangile à d'autres? Et puis, comme c'est un peu peut-être théorique, Paul donne trois exemples. Trois exemples à suivre. Le soldat, l'athlète, le cultivateur. Souffre avec moi, ça commence pas très bien. Hein. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Si nous voulons combattre pour Jésus, cela va entraîner des souffrances. D'ailleurs, c'est le point commun entre ces trois exemples, entre le soldat, l'athlète et le cultivateur. Nous voulons plaire à notre maître, celui qui nous a enrôlés. Et le danger là, que souligne cet exemple, c'est le danger de s'embarrasser. De s'embarrasser de trop de choses. Et d'avoir à assumer des loyautés multiples qui vont entrer en conflit les unes avec les autres. Par exemple, si je m'affilie à un club de sport, il va fatalement arriver un jour où on va me dire « Dis donc, dimanche, on compte sur toi, hein, parce que une équipe de foot, à 10, ça ne marche pas. » Ou si je me marie avec un non-chrétien, forcément il va y avoir à arbitrer un jour. Je vais aller à l'église ou je vais aller avec mon conjoint ce jour-là. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie. Soyons assez sages pour faire les bons choix, les choix qui ne nous embarrassent pas. Et puis il y a l'athlète déterminé, celui qui n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Quand j'étais plus jeune, à une époque, je faisais pas mal de ski. Et je faisais des slaloms, mais je loupais toujours des portes. Mais j'avais un très bon temps à l'arrivée. Bah, évidemment, j'avais loupé les portes. Et je trouvais que c'était très dommage que mon temps ne soit pas enregistré quand même. Et ben non, je n'avais pas combattu selon les règles. J'avais loupé les portes. Il faut de la consécration. Il faut du temps passé pour un athlète. Il faut s'entraîner. Et finalement, parfois une gloire très passagère à la fin. Pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous vous êtes entraîné des années et des années et des années pour arriver aux Jeux Olympiques? Pour une médaille. Et encore, je l'ai ratée. Suivons les règles que le Seigneur nous a données. Les règles, c'est ses commandements. Les premiers, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis le cultivateur. S'il y a encore quelqu'un qui souffre, c'est pas très facile de cultiver le sol, surtout à cette époque. Les tracteurs étaient encore pas très au point. C'est la patience, le cultivateur. Vous semez quelque chose, et puis il se passe rien. Pendant longtemps. Vous plantez un arbre, combien d'années il faudra attendre pour avoir les premiers fruits? Et pourtant, celui qui sème, c'est celui qui recueillera les fruits. Que Dieu nous donne aussi la patience. Nous investissons tous les jours pour le royaume éternel. Nous sommes appelés à travailler dur. Nous voulons que notre Église grandisse. Travaillons. Préparons le terrain. Connaissons la parole de Dieu. Parlons-en autour de nous. Prions pour les contacts que nous avons eus, pour ceux que nous aurons demain. Et puis le dernier point que Paul dit, c'est un peu paradoxal. Comprends ce que je te dis, le Seigneur te donnera l'intelligence. On aurait eu envie qu'il écrive dans l'autre sens. Le Seigneur te donnera l'intelligence, alors tu comprendras tout seul. Non. Il lui dit bien, comprends. Et comme ça suit le soldat, l'athlète, le cultivateur, on comprend ce qu'il veut dire, Paul. Il faut faire des efforts pour comprendre. Comprends ce que je dis. Réfléchis avec ta tête. Ouvre ta Bible. Lis-la. Essaie de la comprendre. Il y aura forcément des passages où, un peu plus dur que d'habitude, je ne comprends pas tout. Et c'est une promesse. Si tu fais l'effort de chercher à comprendre, le Seigneur te donnera l'intelligence. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, pensant qu'il faut suffit se mettre dans l'herbe au pied du cerisier, d'ouvrir la bouche, et les cerises vont tomber toutes seules dedans. En résumé, toi donc, c'est pour chacun de nous. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus, avec trois points, ne pas s'embarrasser. Suivre les règles du Seigneur, faire preuve de patience. Et puis, confier ce que nous avons entendu, connu, à des personnes fidèles qui puissent l'enseigner à d'autres. Ça, c'est notre travail en tant qu'ancien de l'Église, mais c'est aussi le travail de chacun de nous. Le peu que je peux savoir du Seigneur, je peux le dire à quelqu'un d'autre. Si cette personne va grandir dans la foi, elle pourra aussi l'enseigner à d'autres. Voilà. Eh bien, il suffit de faire ça et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans un monde hostile, hostile à ta parole, hostile à tes enseignements, hostile à tes conseils. Et pourtant tu nous proposes dans ce monde-là de lutter pour la vérité, de lutter pour que d'autres hommes, d'autres femmes connaissent ta parole et puissent bénéficier de tes promesses. Tu nous dis de nous fortifier. Et là, c'est pareil, pour se fortifier, il ne suffit pas d'attendre que les choses arrivent. Il faut s'entraîner, il faut se donner un peu du mal. Mais toi, tu as tes promesses. Tu nous dis, c'est dans la grâce que tu te fortifies. C'est dans ce que je donne. Et nous te demandons, Seigneur, de nous permettre de progresser nous-mêmes et d'être de bons témoins de ta grâce autour de nous. Amen.